Rebonjour. Ce sera l'enseignement d'un évangéliste que nous suivrons ce matin. Deux des évangiles, nous en comptons quatre comme vous le savez, deux des évangiles commencent par raconter la naissance de Jésus-Christ, la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Ce sont Matthieu et Luc. Et c'est dans ces deux évangiles, de Matthieu et de Luc, que nous puisons les éléments du récit de Noël. L'annonce à Marie, le cantique de Marie, les mages, les bergers qui ont été cités tout à l'heure, enfin les mages tout à l'heure, la louange des anges devant les bergers, et toutes ces scènes dont nous nous souvenons à Noël. Noël, c'est la venue de Jésus dans ce monde, et il a été rappelé tout à l'heure que ce temps de l'Avent est caractérisé par cette venue de Jésus. C'est cette venue à laquelle nous sommes invités à nous préparer pendant le temps de l'Avent. Et nous sommes aujourd'hui au quatrième dimanche de l'Avent, les quatre bougies sont allumées. Ceci dit, comment commencent les deux autres évangiles? Je n'ai cité que Matthieu et Luc, il y a encore Marc et Jean. Marc et Jean commencent tous les deux par parler de Jean-Baptiste. À quelques versets près, l'évangile de Jean commence, alors, non pas par Jean-Baptiste, mais par ce que l'on appelle un prologue ou une introduction où Jean parle de la lumière qui vient dans le monde. Puis après, tout de suite, il parle de Jean-Baptiste, de la même manière que Marc, qui lui commence tout de suite son évangile, nous allons le lire dans un instant, par le récit de Jean le baptiseur. Celui qui baptisait, qui s'appelait Jean, mais qui était surnommé le baptiseur, celui qui baptisait les gens, les appelait à se repentir. C'est à propos de Jean-Baptiste que nous avons cette phrase « Préparez les chemins ou le chemin du Seigneur ». Cette phrase résonne très bien avec la période de l'Avent. Nous préparons la venue, la commémoration de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Mais lorsque cette phrase est citée, Jésus est déjà adulte en fait, puisque Jean-Baptiste et Jésus sont cousins, et les deux étaient adultes quand Jean-Baptiste a prononcé cette phrase. Nous allons lire le début de l'évangile de Marc maintenant, je vous invite à écouter ou à suivre la lecture des 8 premiers versets dans la Nouvelle Bible Second. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Selon ce qui est écrit donc, « Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. » Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême, dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi ». Et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » Fin de citation. Ici, l'évangéliste Marc cite le prophète Ésaïe, comme c'est écrit. De la même manière, d'ailleurs, les trois autres évangiles citent ce même verset du prophète Ésaïe. Les quatre évangélistes donc raccrochent à cette annonce prophétique d'Ésaïe la venue de Jean-Baptiste. C'est une idée donc très ancienne et c'est une lecture très claire des textes de l'Ancien Testament par nos prédécesseurs, par les évangélistes, les quatre évangélistes. Cette citation explique le rôle de Jean-Baptiste auprès de Jésus. Jean-Baptiste est chargé d'annoncer la venue dans le monde de celui qui est plus grand que lui. Il est bien écrit que Jean-Baptiste baptise d'eau et Jésus baptisera dans l'Esprit Saint, signe de cette forte expérience que les apôtres eux-mêmes vont faire à la Pentecôte et à plus tard, à leur suite, des millions de chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Et le message de Jean-Baptiste est limpide. Repentez-vous. C'est écrit. Il baptisait les gens, et les gens se faisaient baptiser, pardon, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Alors il s'agit, dans notre histoire récente du XXe siècle, il y a les confessions publiques de certains régimes communistes qui sont tout à fait détestables. Et je pense qu'il ne s'agit pas de quelque chose de malsain, lors de la manipulation de masse dont il est question ici. Mais simplement, à un moment donné, il faut être honnête. Et quand on a fait du mal, il faut savoir le reconnaître, y compris auprès des gens qui en ont souffert. Et donc, cet aveu public de ses péchés, de son imperfection, en se faisant baptiser, peut-être en disant quelques mots à Jean-Baptiste ou à des proches avec qui on a des choses à régler, ce baptême-là exigeait une grande honnêteté de la part des personnes qui venaient se faire baptiser. Et Jean-Baptiste appelait ces gens, leur disait de se libérer de ces chaînes de culpabilité, du mal qui retenait leur liberté. Ésaïe, quand il dit « préparer les chemins du Seigneur », pense à toute autre chose. Prenons quelques instants le texte d'Ésaïe. C'est le chapitre 40 et au début du chapitre. C'est au début de la deuxième partie du livre d'Ésaïe, et ce sont des paroles de consolation que le prophète adresse au peuple d'Israël. Ce peuple est déporté en Mésopotamie, disons, à l'est, loin de son pays, à des heures, des journées plutôt, de marche, et il souffre, parce qu'il est prisonnier, tout simplement. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Et là le sens de la déportation d'Israël est donné, c'est-à-dire que si Israël a été déporté, c'est parce qu'ils avaient commis un certain nombre de méfaits et que malheureusement, il subissait les conséquences de ses méfaits. Et puis voilà cette phrase qui est citée dans les quatre évangiles et qui apparaît maintenant. Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride, que toute vallée soit élevée, que toute montagne ou toute colline soit abaissée, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Il était question de préparer la venue du Seigneur pour les Israélites qui étaient loin de chez eux, retenus prisonniers en déportation en Mésopotamie. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression « préparer le chemin du Seigneur »,« frayer un chemin, le chemin du Seigneur » ? Le peuple devait préparer quelque chose pour vivre sa libération. Le peuple devait tout simplement enlever les cailloux qui sont sur le terrain, sur le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire enlever, retirer les pierres et aplanir ? De nouveau, on en arrive au comportement de l'être humain. Et là, je généralise volontairement le propos, non pas seulement aux Israélites de l'Antiquité, d'il y a très longtemps, mais aussi à tout être humain d'aujourd'hui. Si je veux que Dieu vienne dans ma vie, j'ai des choses à faire. Certes, Dieu est un Dieu de grâce qui vient gratuitement. Il ne s'agit pas d'avoir un pédigré, d'amasser une telle quelconque somme d'argent ou de faire une liste d'actes. Mais en même temps, si je veux que Dieu vienne dans ma vie, j'ai peut-être des comptes. Il a peut-être des comptes à régler avec moi. Peut-être que j'ai des comportements qui doivent disparaître de ma vie. Des paroles, des relations, des actes. des attitudes. Préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur s'entend dans le texte d'Ésaïe comme dans la citation qui est faite par Jean, enfin par les quatre évangélistes à propos de Jean, s'entend comme le chemin de Dieu vers nous. Il faut que le peuple prépare, oui, ôte les obstacles à la venue de Dieu dans ses cœurs, dans les cœurs. Il est question des péchés, il est question des fautes. Pardon de parler de fautes et de péchés à 3 jours, 2 jours de Noël, mais en même temps, c'est pour cette raison que Jésus est venu. L'histoire, à la suite de dans le récit que fait Ésaïe, va être très belle. Le peuple va être libéré par un roi, un grand roi, qui, à l'inverse de son prédécesseur, va libérer ce peuple et lui permettre de revenir dans son pays, de reconstruire ses villes, de reconstruire son temple et de vivre avec un peu de liberté pendant un certain temps. L'histoire va être belle aussi pour nous. Si nous préparons la venue du Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs, quelle belle histoire va suivre. L'histoire du pardon de Dieu, l'histoire de sa grâce, l'histoire du chemin qu'il va nous ouvrir à son tour, après que nous aurons ouvert le chemin de Dieu vers nous, déblayé, enlevé ce qui gêne. Ici, dans le texte d'Ésaïe, le Seigneur, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est surprenant et significatif que les évangélistes, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, attribuent, citent ce verset pour parler du Christ, le Seigneur, lui aussi. Et Jean-Baptiste va appeler ce peuple qu'il a en face de lui à la repentance, tout comme le peuple d'Israël dans Ésaïe devait aussi se repentir. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de repentance. La repentance, c'est quand on reconnaît ce qu'on a fait de mal et qu'on s'engage à ne plus le faire. C'est aussi un acte de foi et de confiance en Dieu. Le baptême de repentance va donner d'ailleurs un des sens du baptême chrétien que Jésus va enseigner. Il y a la vie d'avant, celle qu'on avait lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Et puis il y a cette vie qu'on a une fois qu'on a rencontré Dieu. J'ai entendu, c'est intéressant d'écouter la radio, à France Info, je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'interview d'un homme qui disait avoir rencontré Dieu dans le désert du Sahara. C'était une conversion tout à fait étonnante. Dans une nuit, il a découvert la foi, rencontré Dieu. C'était Pierre-Emmanuel Schmitt, si je ne me trompe pas. Vous l'avez peut-être entendu. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Où il témoigne, et d'ailleurs il a écrit un certain nombre de livres que je vous recommande. Je ne les ai pas tous lus. Il disait à la radio, voilà, j'ai découvert la foi, j'ai rencontré Dieu dans une nuit au Sahara. Comme si c'était vraiment une rencontre physique, s'il avait croisé Dieu au coin d'une dune. Mais c'était très très fort ce témoignage, admirable. Et cet homme disait que sa vie était fondamentalement transformée. Baptême de repentance, baptême de vie nouvelle. Cet appel de Jean-Baptiste précède la venue de Jésus. La venue de Jésus dans le ministère public. C'est le baptême de Jésus. Alors, bizarrement, le baptême de Jésus n'est pas un baptême de repentance, puisque Jésus n'avait, pour le coup, rien, lui, à se reprocher. Mais c'est un baptême qui l'introduisait dans la vie publique, dans son ministère. De la même manière que Jean-Baptiste réclamait, appelait ses contemporains à se repentir alors qu'il annonçait la venue de Jésus-Christ, eh bien nous, qui sommes dans la période de l'Avent, je vous propose la même démarche. Nous allons fêter Noël. Nous allons nous souvenir ensemble, nous le faisons déjà d'ailleurs, de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Alors, nous n'avons rien à préparer pour qu'il vienne, il est déjà venu, mais souvenons-nous que cet appel de Jean-Baptiste peut nous parler aujourd'hui, dans cette période de l'Avent. Que faisons-nous pour préparer la venue ou pour préparer la commémoration de la venue de Jésus-Christ? Est-ce que nous faisons des courses? Les magasins sont ouverts les dimanches avant Noël. Est-ce que nous faisons des bretalas? Est-ce que c'est ça préparer Noël pour vous? Je n'ai rien contre les bretalas. C'est très bon. Mais quand même, on sait très bien que c'est pas ça le sens de Noël. Est-ce que Noël se limite à des bougies, des guirlandes, des sapins, des décorations? Si belles soient nos villes à Mulhouse, nos rues à Mulhouse, est-ce que c'est ça préparer la venue de Jésus-Christ dans nos cœurs? Est-ce que c'est cocher sur une liste les cadeaux pour la tante Charlotte et est-ce que c'est ça le sens que nous voulons donner à Noël? Je n'ai rien contre les cadeaux, les décorations, les bretalas et les courses et tout ce que vous voulez. Mais n'oublions pas qu'il nous faut nous préparer, nous, à cette commémoration. Nous préparer de manière intime. Oui, Jésus est venu dans le monde et il est venu pour moi aussi. Ce n'est pas juste un fait historique que l'on commémore comme ça parce que c'est une tradition, c'est une rencontre entre lui et moi. Pour me préparer à commémorer sa venue, à l'appel de Jean-Baptiste, au risque de ce mélange des deux récits, j'ai peut-être des choses à aplanir dans ma vie. Peut-être des pierres sur le chemin à retirer pour que Jésus puisse vraiment venir vers moi, dans mon cœur, dans ma vie. Il me faut retirer les cailloux de mes disputes, les trous de mes relâchements spirituels, les bosses de ma paresse. Accueillir le Seigneur ne se fait pas comme ça. On ne fait pas ça entre la poire et le fromage. On ne fait pas ça au coin d'une porte. Accueillir le Seigneur dans une vie, dans sa vie, c'est un acte lourd de conséquences, un acte merveilleux. Et quand je dis lourd de conséquences, c'est pour dire que c'est magnifique. En hébreu, le mot « lourdeur » peut être traduit aussi par la gloire. Quand je dis un acte lourd de conséquences, c'est un acte qui provoque tant de joie, de paix, de lumière dans une vie. S'il y a des choses que nous avons du mal à retirer de nos vies pour pleinement accueillir ce Seigneur qui vient à nous, il peut nous aider. Après tout, si Jésus est venu, c'est bien parce que nous allions avoir du mal à retirer les cailloux. Tout ne va pas tout seul dans nos vies. Les mauvaises habitudes sont là, ancrées, tenaces. Toutes ces traditions de Noël, si belles soient-elles, et elles sont belles, mettons-les au deuxième rang, derrière l'appel de Jean-Baptiste, préparer la venue du Seigneur. Et on sait le contexte et le sens qu'il y a dans cette phrase. Préparez-vous, préparons-nous à accueillir Dieu dans notre vie. Préparons-nous, prenons du temps, arrêtons de courir, sachons nous remettre en question, reconnaître nos torts, nos mauvaises habitudes, et puis reconnaître aussi ce grand Dieu qui vient vers nous, le Dieu de grâce, qui fait du bien, dont l'amour est puissant et doux à la fois. Préparons-nous à célébrer la venue de Christ de manière profonde, consciente et engagée. Sinon, nos Noëls ne seront que des guirlandes. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un heureux Noël. Je vous souhaite un Noël conscient. Je vous souhaite, si nécessaire, un Noël repentant. Je vous souhaite un Noël renouvelé dans votre foi. Et puis, dernier petit clin d'œil, Jean-Baptiste. On l'appelle le précurseur. Ça veut dire celui qui court devant, celui qui annonce, celui qui préfigure. Ne pourrions-nous pas être, à notre humble mesure, des précurseurs à notre tour, auprès d'autres personnes, à qui nous dirions « Préparez, préparez la venue du Seigneur dans votre vie. Faites le ménage. Accueillez la grâce de Dieu. Soyons des Jean et des Jeanne, des Jean-Baptiste et des Jeanne-Baptiste, auprès de nos amis, de nos familles, pour qu'ils puissent eux-mêmes un jour accueillir dans leur vie, dans leur cœur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu qui vient vers nous. Et nous, c'est donc ce dont nous nous souvenons à Noël. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous aimes et que cela nous apparaît dans cette venue de Jésus dans le monde. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Et Seigneur, nous sommes au bénéfice de ce salut, nous et tant de personnes dans ce monde, au bénéfice de ce pardon, au bénéfice de ta grâce. Nous te prions, Seigneur, pour que tu bénisses chacun d'entre nous dans cette période de Noël. Nous te prions aussi pour que nous soyons des Jean et des Jeanne qui annoncions le Seigneur, qui est plus grand que nous, comme disait Jean-Baptiste. C'est vers lui que nous voulons que les regards se tournent. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous bénisses en cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.